Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce 19 juillet. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal, les sports et la chronique de la politique australienne comme chaque mardi. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et les grands titres de ce mardi 19 juillet, la ministre de l'Environnement, Tania Plibersek, a déclaré que le gouvernement précédent avait choisi de ne pas publier de rapport sur l'environnement car ses conclusions sont mauvaises. L'organisation Save the Children demande au gouvernement de rapatrier 63 Australiens détenus dans les camps en Syrie. Une grande partie de l'Europe sous une vague de chaleur qui, selon les scientifiques, est cohérente avec le changement climatique. Un rapport gouvernemental tant attendu détaille l'échec total de l'Australie à protéger les environnements naturels et les espèces menacées selon les scientifiques. Le rapport sur l'état de l'environnement est une évaluation obligatoire préparée par un groupe de scientifiques indépendants. Tous les 5 ans, la ministre fédérale de l'Environnement, Tania Plibersek, a déclaré à l'ABC que les dernières découvertes étaient inquiétantes.
Well, this report is indeed very disturbing reading. It says that our environment is in a poor state and it's getting worse. And that if we don't change the laws and the systems that we have to protect it, that decline will continue. Some of the really disturbing stuff in here goes to species loss. We're the worst continent on the planet for mammal extinctions.
On estime 1 à 3 milliards d'animaux ont été tués ou déplacés lors des feux de brousse de l'été de 2019-2020. La destruction du patrimoine autochtone se produit également à un rythme inacceptable contre la volonté des gardiens traditionnels, selon le rapport qui cite l'effet négatif sur le bien-être des peuples autochtones. Le rapport a révélé que les températures terrestres et océaniques ont augmenté de 1,4 degrés depuis le début du XXe siècle, tandis que les Australiens sont parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre par personne au monde. Le rapport a été remis à l'ancien gouvernement de coalition mené par Scott Morrison en décembre dernier, mais le rapport a été gardé secret selon Tania Plibersek.
When you read the report, you'll understand why they kept it secret. This report says that the state of the Australian environment is poor and it's getting worse. If we keep doing what we have been doing, it's going to keep getting worse. So, of course, what we need to do is invest in restoring and repairing and protecting our environment, change our laws and change our systems to better protect the environment.
Un expert du coronavirus affirme que les variants d'Omicron ne se comportent pas comme prévu. Alors que le nombre de cas d'infection continue de grimper, dans le dernier pic de cas d'Omicron, le docteur Norman Swan a déclaré sur l'ABC que le virus revient sans cesse en échappant à l'immunité.
Let's just put this in perspective. So BA4 and 5 does not seem to be more virulent than the previous versions of Omicron, except that more and more people are getting infected. And the more people get infected, even if it's a little less virulent than Delta, you're still going to see hospitalizations. The problem is that immunologists are increasingly perplexed by this virus. It's not behaving the way they expected. What you would expect is that you would build up a community-based immunity to this virus, and it would become milder and milder as time goes on in terms of the impact on the community. That's not happening. It just keeps on coming back and evading immunity.
Le docteur Swan encourage les gens à utiliser un masque N95. New South Wales Health a signalé aujourd'hui 13 544 nouvelles infections de coronavirus au cours des dernières 24 heures. Et dans le Victoria, 12 201 cas ont été recensés. Les responsables de la santé et les experts tentent de déterminer quoi faire avec des dizaines de millions de vaccins Covid que l'Australie a achetés mais n'en a pas besoin. On craint que certains ne soient simplement gaspillés. Le professeur Brendan Crabb de l'Australian Global Health Alliance a déclaré sur l'ABC qu'un examen des fournitures de vaccins était vital.
Emergency of a pandemic, it makes sense to have given ourselves a lot of options, but we do need to review that very closely and decide how we can do it better next time, because there's nothing more tragic than to literally throw out life-saving vials of vaccine.
L'accès à la prime de paiement d'isolement du COVID-19 reprendra cette semaine alors que les autorités sanitaires tentent d'arrêter la propagation des cas de coronavirus à travers le pays. Les employés qui ont été testés positifs pour le virus et qui doivent s'isoler de leur travail peuvent recevoir le paiement de $750 qui sera à nouveau disponible à partir de demain mercredi. Alors que plus de 800 000 étudiants en Nouvelle-Galles du Sud reviennent à l'école ce mardi après les vacances, les méthodes de contrôle du Covid seront renforcées au cours des 4 premières semaines du trimestre 3. Les masques sont fortement encouragés en milieu scolaire et 9 millions de tests antigéniques rapides supplémentaires seront fournis. La secrétaire adjointe du groupe au ministère de l'Éducation de la Nouvelle-Galles du Sud, Simone Walker, déclare que le ministère ne peut pas exclure l'apprentissage à distance, mais affirme que cela ne se produira que dans des circonstances exceptionnelles.
And at the end of last term, we found this only happened in very few cases. Our aim is to get our students back into classrooms, and that's where they want to be. They've been on school holidays now for a couple of weeks. The weather hasn't been great, so they're keen to get back and see their friends, and we want to welcome them.
Le trésorier fédéral Jim Chalmers avertit qu'il y aura des nouvelles économiques difficiles lorsqu'il fera une déclaration au Parlement le 28 juillet prochain concernant les attentes en matière d'inflation, des taux d'intérêt et des salaires. S'adressant aux médias à Canberra, il a déclaré que les Australiens doivent se préparer à une période économique difficile au cours des 2 prochains mois, alors que l'inflation continue d'augmenter, ajoutant à la hausse du coût de la vie. Il dit également que la croissance des salaires ne peut pas suivre l'inflation et que les obstacles économiques tels que la hausse des taux d'intérêt, l'insécurité alimentaire et énergétique et la dette publique se font sentir dans de nombreux pays, pas seulement en Australie.
My job is to paint the true picture of the economy and our economic challenges, and that's what I intend to do on Thursday, the 28th of July, in the Parliament. We have inherited the trickiest set of economic conditions that a new government has inherited in memory.
La chef de l'opposition par intérim, Susan Lee, a déclaré que le gouvernement travailliste était responsable des défis économiques auxquels sont confrontés les Australiens en raison de ce qu'elle appelle un plan faible présenté et adopté par le Labour lors des dernières élections générales.
We know this because last week the Parliamentary Budget Office confirmed that the costings that Labor took to the election were larger than ours. Labor is coming after your money, and we know they can't manage theirs. It's not good enough to hear Jim Chalmers simply say it's all too hard.
De nouvelles recherches ont révélé que la démocratie australienne est minée par une culture dite des emplois pour les potes, avec un poste sur 5 au conseil d'administration du gouvernement fédéral occupé par une personne nommée politiquement. Un rapport du Grattan Institute montre que les conseils, les tribunaux, les agences du gouvernement fédéral et les États sont remplis de personnes qui ont déjà travaillé dans le domaine politique. Écoutez le ministre du Travail, Tony Burke, qui a déclaré que les nominations de l'ancien gouvernement Morrison manquaient souvent de mérite.
I look at boards that I'm responsible for. The National Museum of Australia has no historian on it. The National Portrait Gallery has no one who's First Nations. We have boards that have not been made as skills-based boards, where the only skill that was expected of people was a Liberal Party membership ticket. I'm now going through the process, as my colleagues are, of making sure we get back to the skills requirements that should be there on those boards.
En Syrie, un adolescent australien, Youssouf Zahab, est mort dans une prison où il était détenu depuis 3 ans. Les forces kurdes détiennent des suspects de l'État islamique dans ces prisons. En janvier, Youssouf Zahab avait envoyé ce message à sa famille.
I'm Australian, I'm 17 years old. I just got shot by Apache, my head's bleeding. I have injured my head in my hand. There's no doctors here that can help me. I need help, please. I'm very scared. There's a lot of people dead in front of me. I'm scared I might die anytime because of bleeding. Please help me.
On écoute maintenant le reportage de Claire Broadhurst pour RFI.
Youssouf Zahab, 17 ans, faisait partie des 3 détenus qui avaient envoyé des messages vocaux à Human Rights Watch lorsque l'État islamique s'était emparé de la prison d'Al-Sinaa le 20 janvier dernier. Tous avaient déclaré n'avoir ni nourriture ni eau et que de nombreux détenus autour d'eux étaient morts ou blessés. Selon Human Rights Watch, la tuberculose et les décès dus à des blessures et des maladies qui ne sont pas traitées étaient répandus dans certaines prisons où se trouvent des membres présumés de l'EI. Né en Australie, Youssouf Zahab avait 11 ans lorsqu'il a été emmené en Syrie par des proches avant d'être arrêté par les forces démocratiques syriennes en 2019. Toujours selon Human Rights Watch, plus de 41 000 citoyens étrangers, dont la plupart ont moins de 12 ans, sont détenus dans des camps et des prisons dans le nord-est de la Syrie en raison de liens présumés avec l'État islamique. Les pays occidentaux sont confrontés à un dilemme sur la manière de gérer leurs citoyens détenus en Syrie depuis la fin des opérations militaires contre le groupe État islamique en 2019. Le décès de Youssouf Zahab intervient alors que les conditions sécuritaires dans la région risquent de se détériorer. La Turquie menace de mener une opération militaire dans le nord de la Syrie où elle cherche à créer une zone de sécurité de 30 km à la frontière.
L'ancien ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, a remporté le plus de voix au 3e tour de scrutin interne pour remplacer Boris Johnson à la tête du Parti conservateur pour devenir Premier ministre. Il a obtenu 115 voix, suivi de la ministre adjointe du Commerce, Penny Mordaunt, avec 82 voix, et la secrétaire aux Affaires étrangères, Liz Truss, avec 71 voix. Écoutez Sir Graham Brady, président du comité 1922.
I have the results of the third ballot. 357 votes were cast out of a possible total of 358. I'll again read the name of the candidate and the number of votes cast in alphabetical order. Badenoch, 58. Mordaunt, 82. Sunak, 115. Truss, 71. Tugendhat, 31. So Tom Tugendhat is eliminated from the election.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces armées du pays avaient infligé des pertes importantes aux forces russes dans les régions occupées.
Ukrainian armed forces managed to inflict significant logistical losses on the occupiers. It's more and more difficult for the Russian army to maintain its position in the occupied territory. Step by step, we are advancing, disrupting supplies for occupiers, identifying and neutralizing collaborators. The end result is obvious. The Ukrainian flag will be in all our cities and villages. It's just a question of time.
Il a également déclaré qu'il était en train de décider de licencier 28 responsables du service de sécurité en raison, je cite, de résultats de travail insatisfaisants. Hier, Volodymyr Zelensky a limogé le chef des services de renseignement et le procureur général au motif que des membres de leur organisation travaillaient secrètement pour la Russie. Écoutez l'analyse du général Jean-Paul Palomeros, ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN.
C'est sûr que cet imbroglio, l'Ukraine qui appartenait à l'Union soviétique, qui a entretenu des liens extrêmement étroits avec la Russie, ça a créé aussi des proximités, ça a créé peut-être même des amitiés, ça a créé des dépendances de certains responsables. Et les Russes sont très forts pour la manipulation des gens. C'est ce dont M. Zelensky est en train de se rendre compte. Quand ses ordres ne sont pas appliqués à la lettre à certains endroits, je pense que dans l'ensemble, ça fonctionne, mais en ce moment, avec une situation extrêmement tendue, il ne peut absolument pas se permettre ce type de trahison parce qu'il est sur la corde raide. Les forces ukrainiennes sont sur la corde raide, donc les moindres informations qui arrivent aux Russes, en particulier sur le positionnement des armes données par l'Occident, ça c'est un renseignement extrêmement précieux. Donc il est obligé de faire ce genre de ménage, mais ça doit être très difficile.
Une grande partie de l'Europe sous une vague de chaleur. La chaleur a poussé les températures à plus de 40 degrés Celsius dans certaines régions du Portugal, d'Espagne et de France. En France, la France s'est préparée à ce qui pourrait devenir l'une des journées les plus chaudes jamais enregistrées, tandis que la Grande-Bretagne se prépare à ce que les températures atteignent 40 degrés pour la première fois cette semaine. Reportage sur la situation en France dans le département de la Gironde où une catastrophe écologique s'annonce. Sylvie Coffi est l'envoyée spéciale de RFI.
Les feux avancent, plus rien ne semble arrêter leur progression. La situation est très très compliquée, a dit la préfète et je pèse mes mots. En cause, la sécheresse, les degrés élevés avec des pics de chaleur de 44 degrés et les vents qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Un véritable cocktail explosif. Tous les indicateurs nous sont défavorables, souligne la préfète de la Gironde, Fabienne Buchiot, obligée de revoir toute la stratégie. Tout est remis à zéro. Il faut désormais explorer de nouvelles pistes. Carte en main, les pompiers quadrillent toutes les zones pour sécuriser les habitants et leurs maisons. La priorité est d'éviter des victimes. Les évacuations s'accélèrent. Au total, 15 000 personnes supplémentaires sur les deux fronts, à la teste de Buch, où le feu vient de sauter la piste 24, et au cœur des terres, à Landiras, au sud de Bordeaux. Trois nouvelles communes sont concernées, et notamment Villandreau, où est installé le poste des opérations de la préfecture.
Le prince Harry lance un appel aux pays du monde à agir dans la lutte contre le changement climatique, s'adressant à une conférence des Nations Unies à New York pour la journée internationale Nelson Mandela. Le duc de Sussex a mis en garde contre l'impact du changement climatique, non seulement sur l'Afrique, mais sur le reste du monde. On passe à la météo pour ce mardi en Australie, à Perth, il fera 19 degrés, Adélaïde 12, Melbourne 11, Hobart 10, Canberra 12, Sydney 15, Brisbane 20, Cairns 26, Darwin 30 et à Alice Springs un maximal de 25 degrés. Et voilà, c'est la fin de ce journal et merci de rester avec nous.
Mesdames, Messieurs, votre journal des sports de ce mardi 19 juillet 2022. On commence avec du football et l'Euro féminin. Déjà qualifiées pour les quarts de finale, les Françaises ont concédé le nul face à l'Islande, un but partout. Les Bleues ont ouvert le score dès la 9e minute, mais se sont fait rattraper au bout du temps additionnel à la 100e minute avec un but sur pénalty des Islandaises. Les Bleues restent malgré tout premières de leur poule. Objectif quart de finale, on écoute la sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre.
Je pense qu'on a vu une belle équipe de France qui s'est un peu plus lâchée en deuxième mi-temps. Je trouvais qu'on avait un visage un peu meilleur, surtout un petit peu plus de justesse technique en deuxième période. On avait souhaité concerner tout le monde et donner du temps de jeu à un maximum de joueuses. Très sincèrement, les filles ont répondu présentes, elles ont fait les efforts. Tout le monde a marqué des points, les filles ont fait les efforts ce soir. C'était difficile, la première période il faisait vraiment très chaud. On sait ce que l'on veut faire en quart de finale.
Le quart de finale, ça sera samedi face aux joueuses du Pays-Bas, tenantes du titre. Football toujours et la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations féminine qui se poursuit. En finale, dimanche prochain, les Marocaines affronteront les Sud-Africaines. C'est la première fois que les Marocaines vont aussi loin dans la compétition. Et la veille, samedi, c'est le match pour la troisième place qui se jouera, Nigeria contre Zambie. Le Cameroun, lui, éliminé en quart de finale, termine sur une bonne note, puisque en battant le Botswana 1-0 en match de classement, eh bien, les Camerounaises gagnent le droit de disputer un futur tournoi de qualification pour le mondial. Hugo Moissonnier.
L'hymne Camerounais en Coupe du Monde, c'est encore possible. Juste avant la pause, la vedette et capitaine d'un soir à Djaranjoya pivote et trompe de loin la gardienne du Botswana, but magnifique. Le Cameroun est repêché. Grâce à son succès du soir, il disputera au moins un tournoi de qualification pour la grand-messe.
Nothing's bigger than the World Cup.
Nous voulions gagner la CAN, mais rien ne dépasse la Coupe du Monde. C'était notre objectif principal, peine à expliquer Estelle Johnson, la défenseuse qui a manifestement retrouvé le sourire.
Of course we wanted.
Un sentiment mitigé.
Plus de gravité dans la bouche du sélectionneur Gabriel Szabo.
Soulagé un peu, il faut garder la flamme parce que la place du Cameroun c'est en Coupe du Monde.
Mais lui non plus n'est pas abattu.
Bon maintenant, est-ce que nous méritions pas mieux? Nous n'avons pas eu de baraka. Nous sommes en train de rebâtir une équipe. Faire un petit dosage entre les anciennes et les nouvelles. C'est une équipe qui a de l'avenir, une très belle équipe, qui va être sur la durée.
On en vient ensuite des championnats du monde d'athlétisme à Eugene, aux États-Unis. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou rate le podium en finale du 100 mètres. Sofiane Amazian avec les relances de Radio France Internationale.
Déception pour la sprinteuse de 33 ans qui boucle pourtant la distance en 10 secondes 93, mais c'est allé très vite, trop vite devant elle, à l'image du trio jamaïcain qui prend les trois premières places de la finale. Médaille d'or pour l'inusable Shelly-Ann Fraser-Pryce, sa cinquième couronne mondiale.
Déception également pour l'Algérien Abdelmalik Laoulou en demi du 400 mètres haies.
Éliminé après sa cinquième place en 48 secondes 90 centièmes, trop loin de son record pour espérer une finale comme en 2019. Déçu, il promet de se remettre au travail pour l'année prochaine.
Aujourd'hui, je suis déçu parce que j'étais prêt pour être dans la finale. J'étais dans ma tête, même si c'est quatrième, peut-être que je vais passer avec les deux meilleurs chronos. Mais malheureusement, dans la course, j'étais cinquième. Du coup, c'est pas possible d'être en finale. Vu 2019, j'étais finaliste. Aujourd'hui, vraiment, je suis déçu. Mais je vais essayer mon possible, comme toujours, d'être au top. Je suis qualifié au championnat du monde l'année prochaine. Je vais essayer de travailler encore plus pour réaliser un bon chrono et faire quelque chose de bien.
Les propos recueillis par Olivier Pron. À noter tout de même cette médaille d'or pour l'Ougandais Joshua Cheptegei, vainqueur du 10 000 mètres.
Allez, on poursuit avec le Tour de France et journée de repos. Hier, le Belge Jasper Philipsen a remporté la 15e étape dimanche avec un départ à Rodez et une arrivée à Carcassonne. Philipsen qui décroche ainsi son premier succès sur le Tour, suivi par son compatriote Van Aert. La veille, la 14e étape de la Grande Boucle a vu l'Australie briller. Michael Matthews s'est imposé en solitaire au sommet de la côte Laurent Jalabert devant Alberto Bettiol et le Français Thibaut Pinot. On écoute l'émotion de l'Australie. Australian Michael Matthews.
I think it's pretty much the story of my career. Had so many roller coasters up and down, but my wife, my daughter, they kept believing in me. And how many times I've been smashed down to all the time get back up. This was for my daughter today. She's 4 years old, and I really just wanted to show her the time I'm away all the time. Is to show her what I do it for. And today was that day.
Michael Matthews de l'équipe Bike Exchange, gagnant de la 14e étape. Donc, on écoute la fierté du directeur sportif Bike Exchange, Matt White.
Today was very, very special on a few fronts. Firstly, things didn't go as planned yesterday. So we had to turn things around, and we turned things around quickly. What does it mean to win our second win after so many places? I think for Bling, it's the most impressive ride of his career. He has changed over the years. He's a different rider than he was when he was with us 4 or 5 years ago. But what he has become is become a lot more robust, and his ability to climb has obviously improved. And he's still got that snap there, and he had some close run-ins there with Wout van Aert early in the race, and to get that monkey off his back and to take the most impressive win of his career, third time trying, we are all very, very proud of him, and we are not content. We're going to keep moving on and aiming for victories from now all the way to Paris.
Les coureurs de la Grande Boucle s'élanceront ce soir pour la 16e étape entre Carcassonne et Foix, 179 km qui feront office d'avant-goût avant les grandes étapes pyrénéennes. Dernière semaine qui commence donc et les favoris jouent leur va-tout. Je vous propose d'écouter l'analyse de notre collègue Christophe Mallet. Il est en France, il suit le Tour de France pour SBS, interrogé comme chaque semaine par Thomas Mercier.
Et ça fait déjà plusieurs semaines que le Tour de France parcourt les routes européennes et françaises. On retrouve Christophe Mallet. Bonjour Christophe.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors on est bientôt proche de l'arrivée, proche des Champs-Élysées. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Tour de France? Faites-nous un résumé.
Alors oui, c'est la dernière ligne droite, hein, parce que le Tour de France finit en cette fin de semaine, dimanche, avec l'étape de procession. Comme on peut dire, l'étape de Paris. Donc vraiment, il reste que quelques jours pour faire la différence. Et il se passe énormément de choses. On a vraiment une bataille au niveau du classement général avec un Jonas Vingegaard, donc le Danois, qui est en tête avec quarantaine de secondes d'avance sur Tadej Pogacar. Et Tadej Pogacar, c'est le double vainqueur du Tour de France, donc les deux dernières éditions. Et c'est surtout un battant ultime. Il va se battre jusqu'à la dernière minute. Donc ce qu'on sait, c'est qu'en fait, on va avoir un spectacle incroyable sur les prochaines journées. Il ne faut vraiment pas, à mon avis, rater cette dernière semaine du Tour de France parce que ça va être un spectacle juste, oui, incroyable parce que ça va se batailler à l'avant. Et là, on sent vraiment un rapport de force ultime entre les deux équipes, la Jumbo-Visma et l'équipe UAE, donc de Tadej Pogacar. C'est plus qu'un combat d'hommes, c'est vraiment un combat d'équipe qui va se jouer. Et il y a toutes les Pyrénées qui restent encore à passer, donc ça va être juste... Voilà, j'ai pas d'autre mot qu'incroyable, Thomas. Je suis désolé, mais c'est incroyable.
Ah oui, c'est clair que le plus beau est encore à venir avec les étapes dans les Pyrénées. La chaleur, en plus, qui est complètement étouffante et écrasante en ce moment en France. Et d'ailleurs, de ce côté-là, comment ça se passe avant de faire le point sur les Français, les Australiens au niveau des classements? Comment les coureurs gèrent aujourd'hui la chaleur?
Un peu comme nous, en fait, hein, la chaleur, c'est vraiment la grosse question de la semaine, je serais tenté de dire. Et c'est vrai que à Carcassonne, par exemple, sur la dernière étape, il a fait 41 degrés et avec un taux d'humidité de fou. Donc en fait, c'est vraiment une spécificité du Tour de France et de ce sport, le cyclisme, c'est qu'en fait, le cyclisme, ça s'arrête pas. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, c'est assez rare qu'on arrête des étapes de vélo. Et donc, pour le Tour de France, c'est pareil. On n'arrête pas le cyclisme, on n'arrête pas le Tour de France, même s'il fait 41 degrés. Alors, c'est moins plaisant, je pense, pour les coureurs. C'est aussi moins plaisant pour nous. Mais les coureurs s'adaptent. Le gros problème d'un coureur cycliste avec cette chaleur, c'est la nutrition. Parce qu'en fait, vous le savez, hein, comme tout le monde, je pense quand il fait chaud, on a juste moins envie de manger. Et sur le vélo, la nutrition, c'est primordial. Sans nutrition, on n'avance pas. Et donc ça, c'est compliqué pour les coureurs de continuer à s'hydrater, à manger, tout en pédalant sous une chaleur accablante d'une quarantaine de degrés. Donc ça, c'est la grosse question des deux, trois prochains jours. Mais on sait aussi que la chaleur va s'atténuer vers le milieu de la semaine quand on va se diriger vers les Pyrénées, justement. Il y a même des questions de pluie. On parle de pluie assez forte dans la semaine. Donc voilà, ils auront à peu près tout eu. Et si je peux juste faire un point sur les étapes à venir, il y a une étape mythique, l'étape d'Otakam, avec cette montée mythique d'Otakam. Si vous êtes un fou du Tour de France, vous savez que c'est une étape et une montée qui est juste incroyable, encore une fois, dans le sens où elle a vraiment une histoire attachée à cette montagne, et d'ailleurs une histoire avec des Français. Donc ça peut être vraiment s'il y a une étape à regarder cette semaine, ce sera l'étape d'Otakam.
Merci beaucoup, Christophe. Et concernant le classement des Français, on en est où pour le moment?
On n'en parle pas des Français aujourd'hui.
Okay. On passe à autre chose. Les Australiens.
C'est pas le meilleur tour pour les Français. Il y a David Godu et Romain Bardet qui sont dans le top 10. C'est des belles performances, mais c'est vrai qu'il y a jusque-là pas de victoire d'étape de Français. C'est même presque possible qu'il n'y ait aucune victoire d'étape de Français sur ce Tour de France, qui est rare, parce qu'il y a toujours au moins une ou deux, un ou deux éclats de combativité avec des victoires françaises. Mais là, on regarde vraiment une forte possibilité qu'il n'y ait pas de victoire française sur ce Tour de France. On le savait, Julien Alaphilippe n'est pas là. C'est tout de suite un peu moins flamboyant quand Julien Alaphilippe n'est pas là. Et c'est intéressant justement d'analyser ça en termes des Français. Après, vous m'avez demandé par rapport aux Australiens, c'est un meilleur tour pour les Australiens. Alors, on en est à deux victoires donc, pour les Australiens. Il y avait eu la première victoire de Simon Clarke qui avait gagné de très très belle manière, on en avait parlé. Malheureusement, Simon Clarke a eu le Covid et donc il a dû se retirer de ce Tour de France. Et puis, il y a quelques jours, en fin de semaine dernière, il y a eu la super victoire de Michael Matthews de l'équipe Bike Exchange GECO qui a gagné après 4 ans sans victoire et c'était et 2 ans dans cette nouvelle équipe, un retour aux sources, un retour à ses débuts. C'était un peu controversé d'ailleurs, ce retour dans l'équipe Bike Exchange GECO, et donc du coup là il a eu deux deuxièmes places sur le Tour de France, et il a réussi à gagner vraiment, et à la force des nerfs, à la force des jambes, une très 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 belle victoire. Donc 2 victoires pour les Australiens, et surtout il y a possibilité d'en avoir une troisième avec Caleb Ewan qui est toujours là. Caleb Ewan, il est en galère totale, il est avant-dernier du Tour de France.
Oui,
il est à je ne sais plus combien, 5 heures ou 6 heures de retard du leader, mais il serre les dents parce que son objectif, lui, c'est pas de gagner des étapes forcément tout le temps, parce que c'est un sprinter, il y en a que très peu des étapes de sprint, mais c'est de gagner à Paris, parce que gagner à Paris quand on est un sprinter, c'est un peu comme gagner la Coupe du Monde. Quand on gagne sur les Champs-Élysées, c'est la victoire la plus glorieuse qu'on peut avoir. Il y a rien qui est aussi beau qu'une victoire comme ça quand on est sprinter. Donc l'objectif pour Caleb Ewan, c'est Paris, et donc ça ferait potentiellement une troisième victoire australienne au Tour de France, et je pense qu'à partir de 3 victoires, on peut dire que c'est un beau tour pour les Australiens.
Clairement, c'est un magnifique tour avec des conditions qui sont assez exceptionnelles. Merci beaucoup, Christophe. On a une chance de vous avoir avant les Champs-Élysées ?
Bon, on verra, on essaiera.
On essaiera ? D'accord.
Non, normalement, ça devrait aller. On essaiera, c'est sûr. Ce qui est compliqué pour nous, c'est les transferts, ce qu'on fait. Beaucoup de voitures. Je vais vous donner un petit secret. On est au milieu de la deuxième semaine, il nous reste une semaine. Et on a fait presque 7000 km de voiture, d'arrivera après 9000 km de voiture. Oui, c'est pas une erreur, 9000 km de voiture. Donc on parlera un jour de l'empreinte carbone de tout ça, mais c'est une autre question.
9000 km en quelques semaines seulement, c'est une belle performance. Merci beaucoup, Christophe. On se retrouve très vite pour faire un nouveau point sur le Tour de France sur SBS, le programme en français. Merci, Christophe.
Merci, Thomas.
Voilà, messieurs, dames, merci d'avoir écouté le journal des sports du mardi 19 juillet 2022.
Nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Comme chaque mardi, c'est l'heure de notre chronique La Semaine Politique. On va s'intéresser aujourd'hui au Forum des îles du Pacifique qui s'est achevé en fin de semaine dernière aux îles Fidji à Suva. Les nations du Pacifique ont discuté des enjeux et du futur de la région. Entre rivalité politique et lutte contre le changement climatique, les dirigeants ont défini une nouvelle feuille de route 2050. Feuille de route qui décrit leurs principales préoccupations en ce qui concerne l'économie bleue. Patricia Meunier.
La délégation australienne est venue en force au Forum des îles du Pacifique qui s'est déroulé à Suva, la capitale des Fidji, du 11 au 14 juillet. Le Premier ministre, la ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires du Pacifique ont répondu présent. Objectif de cette édition, définir des stratégies de long terme pour la région. Deux choses ont marqué le sommet, les rivalités géopolitiques, notamment entre les États-Unis et la Chine, et l'urgence climatique de plus en plus pressante pour les îles, surtout celles de faible altitude. À part le retrait du Kiribati juste avant le début du forum qui a fait débat, l'édition s'est déroulée de manière harmonieuse. Même si l'idée était d'avoir un sommet sans la Chine et les États-Unis, ces derniers se sont quand même invités à la table de réunion. Mardi dernier, la vice-présidente Kamala Harris a annoncé en vidéoconférence le renforcement du soutien américain à la région.
The United States is a proud Pacific nation and has an enduring commitment to the Pacific Islands. Which is why President Joe Biden and I seek to strengthen our partnership with you. We recognize that in recent years, the Pacific Islands may not have received the diplomatic attention and support that you deserve. So today I am here to tell you directly, we are going to change that.
La vice-présidente américaine a annoncé quelques nouveautés, l'ouverture de 2 nouvelles ambassades au Tonga et au Kiribati, la nomination d'un envoyé régional et une injection de 600 millions de dollars supplémentaires dans la zone. L'objectif est plutôt clair, y freiner l'avancée de la Chine. Le Premier ministre australien s'est réjoui de ces propos. On l'écoute.
I describe what occurred earlier this year as a Pacific stuff-up that we hadn't paid enough attention. And I know that the Biden administration has said that as well. I very much welcome the increased engagement of the United States in the region. It's a significant support package that they've announced, increased diplomatic presence, increased support in the form of aid, increased support in the form of infrastructure development here. And it's consistent as well with the decisions that we made at the Quad Leaders Summit in Tokyo just a short time ago.
Car rappelons le contexte, la Chine a affiché ses ambitions dans la région. Elle a proposé aux États insulaires une assistance financière, un accord de libre-échange et un accès au marché chinois. En retour, l'Empire du Milieu s'impliquerait dans la sécurité localement et bien sûr accéderait aux ressources naturelles. Autre élément impopulaire, Pékin a aussi signé il y a 3 mois un pacte de sécurité très décrié avec les îles Salomon. En marge du sommet, le premier ministre de ces îles a rassuré sa famille du Pacifique. Son pays n'accueillera pas de base militaire chinoise. Pour rappel, les îles sont situées à moins de 2000 km des côtes australiennes. Un peu éclipsé par les rivalités politiques dans la région, le réchauffement climatique a aussi animé les débats. Les dirigeants des îles du Pacifique ont adopté une stratégie commune pour 2050 jeudi dernier. Ils sonnent l'alerte et demandent une action mondiale urgente et immédiate. Car face à la montée des eaux, le temps presse. Si le pire scénario se produit, certains pays seraient engloutis ou même ravagés par des tempêtes de plus en plus violentes. On écoute le premier ministre de Fidji, Frank Bainimarama.
This strategy is about our past. It is about our present. And it is certainly about our future. It is about how we work together as communities, as countries and as one blue Pacific continent. The 2050 strategy is about what we share in common, our challenges, our opportunities, and what we need to do together. This is why the 2050 strategy focuses on our people.
Le Premier ministre australien a profité du forum pour se démarquer une fois de plus du gouvernement précédent. Il a confirmé que son pays va faire des efforts dans ses relations avec ses voisins du Pacifique et en matière de climat. L'île continent a même proposé d'accueillir la prochaine conférence sur le climat en 2024. On écoute Anthony Albanese.
They were very enthusiastic about the idea because what it will do is to provide a focus on the very real threat that climate change has to our Pacific Island neighbours. For countries like Tuvalu and Kiribati, it's a threat to their very existence. They were very supportive, and indeed in the communique, it is reflected the support of all of, every single one of, the island nations' support for our bid for a conference of the parties on climate change to be held with Australia and the Pacific.
Malgré les discours positifs, le continent reste critiqué pour sa dépendance au charbon. On écoute le révérend James Bhagwan, secrétaire général de la Conférence des Églises du Pacifique.
You can't come and say you're supporting the Pacific and you're part of the Pacific family and reducing carbon emissions when you're about to sign new mines into action. And so, you know, we've had a lot of reflection about whether the Pacific regionalism is action or rhetoric. And it needs to be action, not just rhetoric.
Les îles du Pacifique vont continuer sans cesse de pousser l'Australie à augmenter sa politique climatique de manière plus ambitieuse et s'assurer qu'elle reste un bon élève et que des actions concrètes soient entreprises.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french. Vos conversations.
SBS French.
Le plaisir d'avoir Anne-Sophie Pink, qui est la directrice par intérim de l'Alliance française de Melbourne. Bonjour et bienvenue à nouveau, Anne-Sophie.
Bonjour Jean-Noël et bonjour à tous les auditeurs.
Et on se parle en ce mois de juillet avec beaucoup d'activités culturelles à venir.
Une grande exposition qui s'appelle France Émotion se tiendra à Collins Place et ce jusqu'au samedi 29 juillet. France Émotion, c'est une belle exposition qui a été réalisée grâce à 4 photographes internationaux qui viennent du Bénin, du Brésil, d'Espagne et des États-Unis et qui vont vous faire voyager à travers la France dans des lieux mythiques comme par exemple l'Opéra de Vichy ou des abbayes. Vous pourrez passer également par le musée du Quai Branly et par des lieux aussi beaucoup moins connus. Cette exposition va vous immerser complètement dans notre hexagone et je pense que ça vous fera oublier un peu la pluie à Melbourne. ce sera la France en gros, ouais, comme si vous y étiez, et ce sera magnifique.
Anne-Sophie, quand vous dites Collins Place, c'est à la mairie de Melbourne ?
Non, Collins Place, vous savez, c'est là où il y a le Sofitel.
Donc, c'est au Sofitel, Collins
voilà,
Place.
C'est là où...
Et l'entrée est gratuite, j'imagine.
Alors, l'entrée est gratuite et c'est merci de le préciser, Jean-Noël. Ouais, l'entrée est gratuite et l'expo est interactive. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez besoin que de votre téléphone et avec une application, vous pourrez avoir accès de manière interactive à toutes ces photos et vous serez vraiment transporté dans le lieu que vous désirez. Je pense que c'est une exposition qui va être super aussi pour les plus jeunes, pour les enfants, pour les plus grands, pour la famille. C'est vraiment une exposition extraordinaire pour tout le monde qui a été faite grâce à l'ambassade de France aussi, à l'Alliance française et à Atout France. Donc, je vous encourage vraiment à y aller. Ça va être vraiment très, très sympa et riche en émotions.
Et sinon, Anne-Sophie, un mot sur ce qu'il se passe à l'Alliance française, chez vous, côté culturel.
Tout à fait. Donc, on organise toujours, nous avons toujours nos matinées de conversation, le mercredi matin, qui sont très, très populaires. Nous avons aussi notre book club qui a repris. Nous avons décidé cette année d'innover et de faire un petit mélange de la culture, je dirais, anglo-saxonne et française. On organise un Noël en hiver au Commons, au QV Building, pour un petit déjeuner le 22 juillet, où la personne qui aura le pull le plus laid gagnera un super prix. Et vous aurez plein de bonnes choses à manger, à boire du chocolat chaud et du café. C'est le matin. Et donc voilà, donc c'est ouvert à tous nos membres et encore une fois, on sera ravis de pouvoir vous y rencontrer ou de vous revoir.
Et ensuite, peut-être un mot sur les cours du troisième trimestre qui ont déjà démarré et qui vont durer jusqu'au 16 septembre prochain.
Donc nos cours ont démarré cette semaine, mais il est encore temps pour vous inscrire. On a des classes pour les enfants francophones aussi et pour les ados francophones. Souvent, on oublie de les mentionner, mais je pense que c'est important. Des classes aussi donc pour les enfants anglophones, pour les ados. Nous préparons les ados au VCE et nous avons d'excellents résultats et évidemment nos classes adultes, donc qui vont du niveau débutant au niveau très avancé. Mi-août, on aura également des cours sur 5 semaines qui seront sur la culture également. On aura notamment une classe de 5 semaines sur Picasso et ses artistes. On aura un cours pour les voyageurs. Si vous planifiez un voyage en France et que vous n'avez pas beaucoup de français, bah, venez apprendre un peu le français du voyage avec nous. Et puis des cours également sur la langue française, sur le langage familier, les idiomes, etc. Voilà.
On peut diriger les gens aussi sur le site de l'Alliance française de Melbourne.
Oui, tout à fait, sur notre site. Ils peuvent nous aller consulter tout ce que nous faisons sur le site de l'Alliance, donc afmelbourne.com.au. Et j'ai oublié de préciser, on a Culture Tech aussi, donc qui est super intéressant pour nos membres, avec plein de presse française, de livres, de musique française.
Merci Anne-Sophie et à bientôt.
Voilà, merci beaucoup Jean-Noël.
votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et enfin, d'émission, un rappel des grands titres de ce 19 juillet. La ministre de l'Environnement, Tania Plibersek, a déclaré que le gouvernement précédent avait choisi de ne pas publier de rapport sur l'environnement en Australie car ses conclusions sont mauvaises. L'organisation Save the Children demande au gouvernement de rapatrier 63 Australiens détenus dans des camps en Syrie. Voilà, avec Benjamin Biolay, Rends l'amour, je vous dis à très bientôt sur les ondes de SBS.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.